Les balado-diffusions Simplement plein air sont rendues possibles grâce à la participation des partenaires suivants.
La saison estivale arrive à grands pas et vous avez besoin de grand air, vous avez envie de camping et de pêche, Pro Nature de Rouyn-Noranda est la solution à vos questions. Une simple visite en magasin vous permettra de constater notre vaste inventaire de cannes, de moulinets, les leurres, aussi bien les lancers légers que les lancers lourds, et les cannes à mouches. Nous vous conseillerons sur les bons produits, tant pour le camping que la pêche. Passez-nous voir chez Pronature de Rouyn-Noranda, 59 Avenue Principale, 819-797-2300. Que ce soit pour vos animaux de compagnie ou vos animaux de ferme, la compétence porte un nom. Monsieur Bouffe, 25 Avenue Chaudière à Rouyn-Noranda, au 819-797-2564.
Action Kia de Rouyn-Noranda pour un choix de véhicule neuf Kia adapté à vos besoins, mais aussi un véhicule d'occasion fiable, sécuritaire et certifié. Venez rencontrer notre équipe qui saura vous conseiller le bon véhicule, comme le Kia Sorento, offert avec traction avant ou intégrale. C'est la qualité à un prix incomparable pour ceux qui aiment en avoir plus pour leur argent. De plus, notre expert en crédit vous accompagnera pour faire la meilleure transaction possible. Action Kia, meilleure garantie et meilleur service au meilleur prix.
Le mercredi balado-diffusion chez Simplement plein air, on y retrouve de tout pour tous, sauf la chasse, sauf la pêche, car c'est le lundi pour la pêche et le vendredi pour la chasse. Simplement plein air, de la balado-diffusion à son meilleur. Simplement plein air, c'est de la balado. Simplement plein air, c'est de la radio. Et maintenant, Simplement plein air, c'est de la vidéo. Et oui, profitez-en pour visiter notre canal YouTube Simplement plein air et abonnez-vous. Après tout, Simplement plein air, c'est pour vous. Voilà, on est de retour à l'émission Simplement plein air. Pour ceux qui viennent de se joindre à nous, chaque semaine, on va faire un tout petit tour au nord du 53e parallèle. Et pour les habitués, bien, vous savez, on va parler avec M. Sylvain Parkin, qui est photographe animalier, qui vit dans le Nord depuis nombre d'années. Je le sais, je le dis souvent, mais on a beaucoup de nouveaux auditeurs et qui nous demandent soit, OK, c'est qui ça, il vient d'où, il demeure où? Bien, il est au Nord du 53e parallèle et on discute de tout, hein? De tout ce qui se passe au Nord. On a des nouvelles de là-bas et on va l'introduire tout de suite, hein, pourquoi pas. Salut Sylvain.
Salut Guy.
Comme je disais aux gens, naturellement, on parle de nouvelles et on donne des conseils, puis on parle de ce que tu fais aussi. Mais là, il y a une chose qui est très importante présentement parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui se dirigent vers le Nord et ça va être de faire attention aux feux de forêt, là.
Ah oh oui, c'est comme vraiment une chose qu'on a cette année à vérifier dans tous nos déplacements, que ce soit pour camping, en VTT, en motocross, parce que les herbes longues, souvent les silencieux très très chauds, c'est une problématique. On a ça. C'est très, 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 très sec. Et en plus, ben, la semaine dernière, c'était cellule orageuse. Moi, j'ai eu droit à toute une cellule orageuse 30 minutes en haut du camp, partout en entour. C'était tout beau. Mais la cellule orageuse nous a brassé. C'était assez exceptionnel de voir ça. L'eau, c'était le déluge, accumulation d'eau au sol, vent, tourbillon, éclair, tonnerre. Et justement, quand ça s'est mis à bouger, ça s'est en allé au nord-est du camp. Puis ça, un éclair a allumé un incendie de forêt à 5000 à l'est de l'aéroport de la Grande-Rivière. Et en plus, plus au sud, on avait 5-6 feux en opération, tout contrôlé par la SOPFEU. Là. Fait que c'est assez extrême, je te dirais.
Oui, puis comme on le sait, hein, les feux de forêt, c'est jamais trop plaisant non plus. Il faut faire attention. Là, c'est la foudre, c'est la nature, mais il y a aussi les gens qui montent et qui font du camping sauvage et puis qui, malgré certaines interdictions, vont quand même faire un feu. Puis c'est là que ça devient dangereux aussi.
Ah oui, absolument, mais tu sais, c'est souvent les gens ont pas, comment je pourrais dire ça, sont plus ou moins au courant du potentiel de dangerosité. Oui, c'est extrême, puis on se dit souvent, ah ouais, mais on est proche de ci, tout est beau. Oui, tout est beau quand vous le faites, mais souvent, c'est les feux sont mal éteints, il y a plein de trucs. C'est souvent les quatre roues aussi. Hein. Souvent, ça arrive dans le sud du Québec, là, que les incendies sont allumés par justement des quatre roues. Là, ils arrêtent de fumer une petite cigarette. Oui, ils ont bien éteint leur petite cigarette, mais ça reste quand même que les silencieux avec des herbes longues, quand c'est très, très sec, ben, c'est ce que ça donne.
Ouais,
fait qu'il faut être prudent. Il n'y a pas de chance à prendre parce que le feu, quand il se met à courir ici dans Taïga, il court très, 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 très vite parce qu'il y a du combustible là, énorme. Comme je dis souvent, il y a un genre de petite mousse noire, l'ursulé barbu qui est mort. Ça ressemble vraiment à de la barbe dans des petites, sur des petites branches très, très secs. Ouais, puis c'est que le feu, il court. Il brûle pas nécessairement l'arbre au complet, mais il court. Fait qu'un feu qui court là avec un bon vent, t'as pas de chance. T'as pas de chance à prendre. Là.
C'est sûr, puis on dit, faut faire attention. Mais là, est-ce qu'ils ont ouvert les haltes routières? Là?
Non, malheureusement. Les haltes routières, tout est fermé encore. Ça cause... plusieurs problématiques. Là. Je vois des gens, j'ai reçu des gens la semaine dernière, puis c'était vraiment une problématique. Là. Les gens disaient, ben là, on fait quoi? Ben,
c'est ça.
Faites ce que vous pouvez, gang. T'sais, parce que faut pas se le cacher, il y a beaucoup de campeurs, il y a beaucoup de gens qui viennent pêcher, puis ben, selon moi en tout cas, c'est beaucoup plus sécuritaire d'aller dans une halte routière.
Ouais.
Que de prendre un petit chemin puis aller camper proche d'un lac puis justement peut-être crisser le feu à la forêt. T'sais. Les gens souvent sont pas mal intentionnés, c'est juste qu'ils sont pas nécessairement habitués à la réalité du Nord et justement le potentiel de dangerosité que, quand tu es au bout de nulle part là. Avec pas de téléphone, avec pas rien, hein, ça peut être problématique.
Oui, monsieur. Et puis, sous une note plus joyeuse, les animaux se promènent en masse, là, par exemple. Tu as vu des ours, tu as un ours même qui est en train de te jouer des petits tours.
Oh ouais, mais je le vois assez régulièrement. Puis monsieur a décidé, en plein milieu de la nuit, de s'amuser avec mes barils de poubelle. C'est pas rien, il n'y a pas de rien d'odorant, c'est du plastique. Parce que moi, je lave tout, même mes cannes et tout ça. Jusqu'à monsieur a décidé qu'il se couchait en avant du camp, à côté des barils. Puis une fois de temps en temps, il en poussait un. Il a emmené les chiens, arrêtait pas de japper. Je suis sorti, mais monsieur était couché à côté des barils. Pas fait de dégâts à rien, juste flippé, tu sais. Il a passé la nuit en avant du camp. Habituellement, ça veut dire que la meute est pas loin. Beaucoup de loups phyto. La grosse problématique, c'est quand c'est très, très chaud, les animaux se trouvent un petit endroit à l'abri et t'as tellement de moustiques que s'il n'y a pas de vent, ils cherchent des endroits. C'est comme bien normal et je crois que la meute devait être pas tellement loin du camp. Probablement, c'est pour ça qu'il n'a pas pris de chance, le gros nounours, de rester au camp. Il savait que c'était beaucoup plus sécuritaire. Et ben relever des caméras, il y a une caméra en particulier que j'ai une attention spéciale, ben 125 déclenchements. Je vois absolument rien. Habituellement, c'est que les loups passent sous la caméra ou très très près, donc ils déclenchent. Mais ça pour moi, c'est un signe de présence, que ça bouge. Et habituellement, dans ce temps-ci, c'est une question de temps avant de voir les premières vidéos de loups phyto là, qui se promènent avec soit maman, papa et le reste de la meule.
Ouais, ça, c'est de toute beauté. Puis écoute, il nous reste environ une minute. Si on parlerait un peu de clientèle, parce que là, on sait que tu offres tes services aussi comme guide d'animalier, photographe animalier. Et puis là, les gens qui viennent faire un tour doivent trouver ça un peu chaud par bout, là.
Oh oui, ben vendredi dernier, les gens en Westphalia voulaient prendre une journée. Je leur ai dit, écoutez, ils nous annoncent 30-31 aujourd'hui avec 17% d'humidité relativement relatif, pas de vent. Fait que j'ai dit, moi, je vous le dis tout de suite, ça me dérange pas, vous voulez prendre une journée, mais j'ai dit vers 10 heures, vous allez en avoir plein le cul.
Ah,
ben non, on est habitué de faire du plein air. Oui, mais je vais te dire, pas d'humidité, sec, moustique, en pleine forêt, à se faire taper, taper sur le ciboulot au gros soleil quand tu es rentré dans le bois 4h30, ça se peut qu'à 10 heures, t'en aies plein les pompons.
Oui,
effectivement, c'est ce qui est arrivé. Beaucoup de gens dans les prochaines semaines, beaucoup de familles cette année. Puis, ben, écoutez, si ça vous tente d'avoir plus d'informations, j'ai fait des activités spécialement de demi-journée, de journée, pour des gens seuls, des gens en road trip, des familles. www.animalparking.info et faites une petite recherche avec le hashtag Animal Parking, vous allez me trouver ces réseaux sociaux, puis gênez-vous pas, c'est juste des informations, je suis là, ça va me faire plaisir.
Oui, puis comme tu l'as bien dit, hâtez-vous, parce que finalement, les dates partent extrêmement vite, et puis Sylvain est une bible d'informations là-bas, il va pouvoir, écoutez, vous allez passer... Que ce soit une demi-journée, même si c'est juste quelques heures, vous allez passer un temps là, que vous allez vous souvenir le restant de votre vie. Donc nous, ben naturellement, si Dieu le veut, la semaine prochaine, on revoit notre ami Sylvain, on va rejaser du Nord qui nous fait rêver. Donc là-dessus, Sylvain, porte-toi bien, attention à ton gros nounours.
Ah oh oui, pas de problème. D'après moi, il sentait probablement le reste des odeurs de pizza.
Oui, monsieur, on comptera ça à un moment donné. Donc, bonne semaine, Sylvain.
Salut, bonne semaine.
Simplement plein air, c'est de la balado. Simplement plein air, c'est de la radio. Et maintenant, simplement plein air, c'est de la vidéo. Et oui, profitez-en pour visiter notre canal YouTube Simplement plein air et abonnez-vous. Après tout, Simplement plein air, c'est pour vous. Voilà, on est de retour à l'émission et cette fois, on va parler de plantes sauvages, on va parler d'une petite plante que, si je vous dis petite oseille, peut-être que ça réveille pas des souvenirs là, pour les personnes un peu plus vieilles, mais si je vous dis de la surette, eh oui, on a tous quelque part dans notre vie. On a goûté à de la surette, et puis si vous êtes plus jeune, vous avez jamais goûté à ça, ben écoutez la chronique, là, et puis après ça, dirigez-vous à quelque part dans un champ, puis allez trouver de la petite oseille pour essayer de goûter à ça. Vous allez voir, c'est bon, faut pas en manger avec excès. Puis pour en parler, bien naturellement, on parle avec un auteur, avec un éditeur, un conférencier, et puis... C'est sûr que j'ai l'air intelligent, mais c'est grâce au bouquin de M. Roger Larivière, Plantes comestibles et médicinales. Bonjour, M. Larivière.
Oui, bonjour.
C'est ça, vous me faites paraître comme je suis bien intelligent, mais la surette, je savais c'était quoi, mais quand j'ai vu petite oseille, et puis j'ai vu en dessous surette, j'ai dit, oh my gosh, quel beau souvenir. Mais il faut faire attention, hein.
Oui, oui, parce que c'est une plante qui est comestible. Puis vous l'avez si bien dit dans, en tout cas en introduction, quand on est jeune puis qu'on s'amuse entre jeunes puis même très jeunes enfants, ben on se fait tout le temps des petits repas. Puis cette plante-là, forcément, nos parents nous ont montré à la consommer et on la consomme. Avec beaucoup d'assurance et on est capable de reconnaître son goût d'ailleurs qui est très très acidulé. Puis c'est pour ça qu'on peut l'intégrer à des salades quand on la consomme parce que toute seule comme ça c'est à un moment donné un petit peu désagréable. Mais ça goûte à cause du vinaigre qui est produit à l'intérieur de la plante. En tout cas une substance qui est proche qui donne ce goût acidulé.
Oui, et puis vous m'avez mentionné d'ailleurs, chose très très intéressante, c'est de la famille des polygonacées, et qu'est-ce qu'on retrouve dans cette même famille, M. Larivière?
Ben écoutez, dans cette famille-là, des polygonacées, c'est dans la même famille que la rhubarbe, alors on sait très bien que la rhubarbe a aussi ce goût acidulé-là. Ce que les gens savent pas habituellement, mais ils le savent parce qu'on leur dit, mais quand on mange de la rhubarbe, on mange pas la partie, la feuille, ce qu'on appelle dans le jargon botanique le lime, parce que c'est toxique. Il y a trop de cristaux d'oxalate là-dedans. Et puis ceux qui ont des problèmes rénaux, c'est complètement évité. Alors, on va manger la tige de la feuille qui est en fin de compte son pétiole. Et là aussi, quand on mange la rhubarbe, il faut quand même en manger pas énormément à cause de ça, parce qu'il y en a aussi un petit peu. Ceux qui ont des pierres sur les reins, c'est à éviter le plus possible.
Oui, c'est ça. Et puis quand on fait, mais on le sait qu'à tous les printemps, on est comme un petit printemps, début été, on est tous comme un petit peu portés à se faire une bonne confiture de rhubarbe et fraises, ou nous, dans notre cas, c'est rhubarbe et framboise. Et puis naturellement, on en fait quelques pots pour les conserver pour l'hiver, mais comme vous le dites si bien, c'est avec modération, parce que finalement, premièrement, toute chose doit être consommée avec modération. Mais ça, la surette comme telle, est-ce qu'il y a des recettes à part les salades où on pourrait l'utiliser? À peu près, j'imagine, partout où on pourrait utiliser du vinaigre, est-ce que ça se ferait, ça?
Moi, je vous dirais qu'en général, on l'utilise comme ça. Jadis, on l'utilisait pour faire du fromage à cause justement de son contenu en acide. Et les feuilles, ça peut être aussi, et ça, je ne le mentionnais pas dans mon livre, ça peut être aussi cuit comme des épinards.
Ah, OK.
Ça fait que vous voyez, quand même, on peut les manger crus, ça aromatise la salade. Puis quand on en a, on peut aussi donc les cuire à la vapeur.
Oui, puis pour les reconnaître, là, ça pousserait dans quel genre de terrain qu'on pourrait retrouver la surette ou la petite oseille?
Écoutez, ceux qui ont vu de la surette, la petite oseille, comme on appelle aussi de l'oseille, ça pousse dans les endroits qui ont été perturbés, ça pousse dans les endroits de gravier. C'est des endroits où il y a peu d'eau, puis des conditions environnementales, c'est bon de ce temps-là parce que on manque d'eau, nos pelouses souffrent, nos champs agricoles souffrent, mais la surette, la petite oseille, elle a un rhizome. Ça, le rhizome, c'est une tige souterraine. Ça, dans ce rhizome-là, il y a toujours de l'eau et des substances nutritives qui sont accumulées au cas où il y aurait des conditions adverses. Alors, c'est pour ça qu'on la considère aussi des fois, la surette, un peu comme une mauvaise herbe, parce qu'elle va se reproduire assez rapidement et assez facilement, là où on ne veut pas. Elle n'est pas invitée. Mais c'est une plante encore qu'on pourrait qualifier de résiliente.
Oui, résiliente. Et puis, on la trouve aussi en terrain sablonneux, si je m'abuse.
Oui.
Quelque peu sablonneux.
La roche, les bords de sentier, c'est ça. Elle doit être exposée en plein soleil. C'est pas une plante de sous-bois.
Non, c'est ça. Oui, ça, je m'en allais dire. Il faut que ce soit plein soleil, parce que sinon, on la voit pas, là. C'est vraiment une plante. Et puis ça, c'est pas une plante qui se prêterait à faire une tisane, ou oui?
Écoutez, moi, ce que j'ai consulté dans la littérature, même je viens d'acheter un livre sur les plantes, comestibles et médicinales, et on ne parle pas qu'on peut utiliser cette plante-là de la façon dont vous parlez actuellement.
C'est ça.
Elle est utilisée comme plante médicinale de façon très importante aussi. On dit même que ça peut faire disparaître les parasites et les vers intestinaux, ce qui n'est vraiment plus le cas maintenant, en tout cas en principe. Pour régler les problèmes de grippe, de sinusite. Et par contre, encore une fois, on recommande de pas la consommer à l'excès, justement, à cause de son contenu en
cristal. Oui, absolument. Et puis, ça se prête bien là, avec du bon poisson, là. vu que c'est du genre de vinaigre et tout, donc c'est vraiment le fun. C'est vraiment, vraiment de bon goût. Et puis, écoutez, M. Larivière, notre chronique tire toujours à sa fin trop rapidement, mais comme je l'ai mentionné au début, vous êtes conférencier, vous êtes aussi, vous guidez aussi, ou façon de parler, vous donnez vos conférences à l'extérieur aussi, oui. Vous êtes auteur, vous êtes éditeur. Si on veut vous rejoindre et puis avoir de l'information sur les sujets qu'on vient de parler ou tout autre sujet botanique ou pour réserver vos services, on le ferait de quelle façon?
Écoutez, je suis sur Facebook. Alors, facilement rejoignable de cette façon-là. On peut me rejoindre aussi par mon site web naturat.ca. J'y donne mes coordonnées. Et puis, écoutez, je donne des ateliers. Je vais même en donner encore quelques-uns cet été, même en période de confinement, en utilisant la distanciation.
Absolument.
Et on prend de la bonne expérience de cette façon-là.
Oui, et puis rejoignez-nous la semaine prochaine parce qu'on va parler d'un petit fruit qui pourrait en attirer plusieurs. On va parler de la mélanchie ou la poire sauvage ou la petite poire. Donc, retrouvez-nous la semaine prochaine. Encore une bonne chronique avec M. Larivière. Bonjour M. Larivière et bonne semaine. Oui. Et bonne cueillette s'il y a quelque chose. On vous suit sur les réseaux sociaux.
Les champignons. À bientôt.
Oh là là, ça aussi on va en parler là. À bientôt. Que vous partiez à l'aventure en pleine nature ou que vous soyez juste d'une nature aventurière, devenez accro à l'aventure sous toutes ses formes chez Simplement Plein Air Simply Outdoors. Nos chroniques et nos reportages combleront le néophyte et l'expert. N'oubliez pas, ce sont les petits détails qui font la différence. Et on va aller faire un petit tour, on va aller faire du camping sauvage. Ben oui, on va parler avec notre ami le Bushman lui-même, M. Marc Prince. Salut Marc.
Salut Guy, ça va bien?
Oui, absolument. Et quand on parle camping, naturellement, là, les vacances de la construction s'en viennent et on sait, on a été confinés pas mal, hein? On a été enfermés pas mal. Mais là, moi j'aimerais ça, tu sais, jaser un peu là, avec toi. Quand on parle camping sauvage, là, on décolle, on part. On se prépare un peu de quelle façon, Marc?
C'est sûr, mettons, le camping sauvage, on peut dire que ça se rapproche un petit peu du bushcraft, sauf qu'on va dire que c'est du bushcraft de luxe.
Oui, un peu, oui, c'est ça.
Une appellation-là. Camping sauvage, là, c'est sûr, c'est qu'en partant, le mot le dit, c'est sauvage, fait qu'on va pas aller dans un terrain camping, on va essayer de s'éloigner un petit peu des gens, soit aller faire du camping carrément, mettons, backcountry en forêt, ou ce que beaucoup de gens aiment faire, là, c'est vraiment, là, mettons, aller camper où il va y avoir des petits lacs où on peut faire de la pêche. Idéalement, mettons, bushcraft de luxe, comme on dit, c'est sûr que ça va commencer avec ce qu'on a. L'abri, c'est une bonne tente. Je vous dirais là, qu'aujourd'hui, là, les tentes, c'est vraiment le fun parce que vous pouvez avoir des tentes, là, des formats là, vraiment intéressants qui sont légères, qui sont pas grosses à traîner, puis vraiment là, faciles. Je dis facile et je redis encore facile à faire le montage de cet abri-là. C'est vraiment vite fait. Fait que, côté abri, là, mettons une bonne tente, là, ça vaut vraiment la dépense.
Oui, puis il y a beaucoup de gens qui se posent des questions. Tu sais, ça dépend toujours combien on est. Si vous êtes juste deux, tu sais, ça vaut la peine là, d'aller aller vous chercher là, quelque chose qui vous casserait pas le bicycle. Puis si je me trompe pas, Marc, pas mal tous les abris aujourd'hui, là, on n'est pas obligé de remettre du stock là-dessus pour l'imperméabiliser. C'est pas mal là, étanche, hein? Mais naturellement, pas s'il fait deux semaines de pluie, là. Mais pour une nuit là, ou deux, il n'y a pas de problème. Là.
Non, c'est sûr qu'en partant, mettons, les tentes qui sont vendues sont déjà imperméabilisées. Fait que c'est sûr qu'à l'occasion, là, on peut acheter une canne là, de spray, mais c'est vraiment facile l'application. C'est une protection, mettons, contre l'UV et contre la pluie qu'on va remettre sur la tente, mais c'est plus des tentes en canevas comme on avait anciennement, là, des toiles qu'il fallait traiter là, avec un galon de stuff là, qui sentait le diable là, au pinceau. Il fallait mettre deux couches, c'était un petit peu moins plaisant.
Là. Oui, c'est ça. Et puis là, ben, on a parlé, naturellement, quand on parle camping sauvage, là, on parle d'abri. mais on a besoin aussi de quelque chose pour faire nos repas. Puis c'est pas obligatoire d'être des gros poils verts comme on avait, pour pas les nommer les Coleman, là. Si vous voulez en avoir un, c'est bien beau, là, il n'y a aucun problème. Mais habituellement, on peut aller plus petit aussi. Il y a les petits Primus et ces choses-là.
Oui, c'est ça. Vous avez différents formats, mettons, pour ceux qui veulent avoir quand même une mini cuisinière là, qui va super bien, là, les petits poils, là, que c'est des marques Campagna, pour mettre des petites bonbonnes au propane à l'intérieur. Là. C'est vraiment pas des poils-là. C'est pas trop encombrant, c'est pas lourd. Puis c'est le fun parce qu'on peut le mettre à peu près sur n'importe quelle surface. Mettons, c'est facile à équilibrer. Comparativement à un petit poêle qu'on va visser juste une teinte. Là. Ça prend quand même un bon sol puis quelque chose d'assez rigide pour que ça tienne debout. Là. Mais il y a plusieurs formats puis il y en a pour tous les goûts. Je vous dirais, ça dépend aussi de la longueur de marche, là, de randonnée que vous allez avoir avant d'installer votre campement. Moins vous allez avoir de longueur à faire avec votre équipement sur le dos, mais ça peut se permettre là, d'avoir des appareils un petit peu plus de luxe.
Oui, un petit peu plus de luxe, puis un petit peu plus grosse, naturellement, parce que c'est ça, comme tu le dis, ça va tout va dépendre de comment loin de votre véhicule vous êtes aussi, parce que il y a possibilité aussi de camper directement en arrière de votre véhicule si vous avez un SUV ou un pick-up. Là.
Absolument, absolument. C'est-à-dire, le camping sauvage, ça ne veut pas dire qu'on va marcher 5 heures en forêt pour être vraiment sauvage, on peut aller à des endroits où c'est carrément, c'est pas des campings, mais qu'on a l'autorisation, on peut faire du camping sauvage, puis comme tu dis, s'installer pas loin de notre véhicule. Ça, c'est vraiment le fun parce que je vous dirais, là, qu'est-ce qui est problématique un petit peu au transport, puis côté conservation, c'est vraiment la bouffe.
Oui, oui, ça, c'est une des choses qui est. Tu sais, c'est beau là quand on part une semaine, mais une semaine à manger des repas déshydratés, là, ça vient long. Hein.
Oui, absolument. Puis là, on s'en va pas en survie. Fait que,
c'est ça.
Comme on dit, c'est du bushcraft de luxe. Fait que idéalement, on va avoir un cooler ou carrément, si on campe pas loin de la voiture, il y a même des coolers là, qu'on peut brancher sur la voiture. Ça, c'est vraiment le fun. Là. Mais c'est ça, c'est vraiment la bouffe. Puis là, si on s'en va loin en forêt, mais là, on n'aura pas le choix d'y aller avec la bouffe plus déshydratée, puis pas juste se fier à ce qu'on va pêcher, parce qu'on le sait, là, on a beau être le meilleur pêcheur, il y a des journées là, que
ça va pas. Oui, c'est ça. Ou il y a quelqu'un qui a passé, il a vidé le... Non. Il a vidé le lac, tu sais. Mais oui, puis là, l'autre chose, élément essentiel à la vie, c'est naturellement l'eau. Donc l'eau, on sait que c'est probablement la chose la pesante que vous allez amener avec vous. Mais si vous êtes loin de votre véhicule, naturellement, mais il y a des choses en marque, il y a des pailles, il y a des systèmes de filtration qu'on peut se procurer.
Oui, absolument. Mettons, on va amener de l'eau, mais il faut pas. Si on a d'affaires, si on en manque de l'eau, comme tu dis, ça prend un système de filtration. Soit une pompe, il y a des pailles, il y a des capsules qu'on peut mettre dans l'eau pour purifier l'eau. Il y a plusieurs façons. C'est des choses qu'on prend en magasin, qu'on va pouvoir avec vous, mettons, plus en détail lors de vos achats. Mais on peut énumérer aussi quelques petits accessoires, mettons, qui sont vraiment utiles. Là. Je vous dirais, la première chose qu'il y a à embarquer dans votre bagage, là, c'est une trousse de sécurité. Quand on dit trousse de sécurité, là, n'hésitez pas là, à vérifier qu'est-ce qu'on tient, mettons. Il y a vraiment des belles petites trousses de sécurité qui sont vraiment faites, sont hermétiques, sont étanches à l'eau, puis sont vraiment complètes. Ça, c'est vraiment intéressant. On veut tout pas s'en servir, mais c'est une des premières articles qu'il faut rentrer dans un sac à dos. Ça, absolument, faut pas oublier ça, la trousse de sécurité. Ensuite, ça, je vous dirais, là, si vous voulez agrémenter votre séjour en forêt, là, puis pas vous battre avec les mouches à tous les jours, là, un bon thermatiel, puis aussi un stuff à mouches là, qui vont éloigner ce qu'on appelle là, les tons à cheval, là, les mouches à chevreuil.
Oui, les frappes à bord. Là.
Et ça, les frappes à bord, ou comme j'aime bien les appeler, là, le petit nom, les migles. Vraiment pas le fun. Là. Vraiment, là, moi, j'arrive de Maniwaki le week-end passé, puis il Il y en avait tellement, sauf que j'avais amené un sophamouche qui repoussait les migues, les 10 migues et les tiques. Fait que ça va pas faire en sorte là, que vous n'en verrez pas. Là. Ils vont être aux alentours de vous, mais sauf qu'ils vont pas se poser pour vous piquer. C'est le ça. Rôle d'un sophamouche, là, c'est ça.
Vous ne serez pas une piste d'atterrissage, ça c'est certain. Là.
Donc, puis c'est vraiment, moi vous dire, là, ces petites mouches à chevreuil-là, là, ça pique pas, ça mord. C'est pas drôle, là. Vous allez enfler, puis... C'est pas des piqueurs qui sont agréables. Munissez-vous là, d'un bon stuff à mouche, puis le thermacelle, mais c'est le thermacelle, puis qu'est-ce qui est des. Je pense qu'on n'a pas besoin ben de le vanter. Là. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde en a au moins un ou deux là, en leur possession. C'est vraiment une petite machine idéale. À ne pas oublier des recharges en masse. Ça, c'est plate de raccourcir votre séjour parce que vous avez manqué de soit de recharge de thermacelle ou ben non de stuff à mouche.
Oui, absolument. Hey, écoute, Marc, on pourrait continuer peut-être la semaine prochaine. Là, ça tire à sa fin. Et puis ça, ben moi, j'aimerais vous rappeler que tout ce matériel-là, naturellement, dont on parle, vous pouvez le trouver chez Pro, dans les Pro Nature et chez Pro Nature à Rouyn-Noranda. Et puis, Marc, si on veut te poser des questions, si on veut en savoir un peu plus, on peut le faire de quelle façon, là, rapidement?
Bon, idéalement, là, pour les gens qui sont de Rouyn, là, passer en magasin, c'est au 59 Avenue Principale. Puis cette année, vous allez trouver ça le fun. Là. On a notre rue principale, les Perreaux, c'est piétonnière. Fait qu'on se parque un petit peu à l'extérieur de la ville. Vous allez pouvoir venir marcher, mettons, dans notre centre-ville puis visiter tous nos magasins. Pour les gens qui sont un petit peu à l'extérieur, si vous voulez me poser des questions, mettons, via Facebook, mais il n'y a pas de problème. Vous n'avez qu'à demander à être ami. Souvent, ce que je demande aux gens, c'est envoyez-moi un petit message, là, Messenger, en me disant là, pourquoi vous voulez être ami, parce que je fais quand même là, un petit peu de filtration. Puis s'il y a des gens qui. C'est juste pour faire du comment je pourrais dire.
Du mémérage, puis du voyeurisme.
Je peux passer du caca, fait que l'autre, j'aime mieux pas les avoir sur mon Facebook. Je veux vraiment avoir des gens là, auxquels on va discuter, puis on va échanger là, de plein air, de pêche, de bushcraft. Là. Ça, c'est vraiment intéressant. Ou vous pouvez appeler en magasin aussi au 819-797-2300. Je vais juste demander à parler à Marc. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions.
Et voilà, c'était M. Marc Prince, dit le Bushman. Et nous, ben, on va rejaser avec Marc la semaine prochaine. Salut Marc.
Salut Guy.
Simplement plein air, c'est de la balado. Simplement plein air, c'est de la radio. Et maintenant, simplement plein air, c'est de la vidéo. Et oui, profitez-en pour visiter notre canal YouTube Simplement plein air et abonnez-vous. Après tout, Simplement plein air, c'est pour vous.
Hello, bonjour ma belle gang de passionnés et puis bienvenue à cette nouvelle chronique photo plein air avec vos deux chroniqueurs, Vincent Delisle et François Desrosiers. Aujourd'hui, on va vous parler des filtres. Mais pourquoi est-ce que l'idée de vous parler des filtres nous est venue? Ben, tout simplement, pour ceux qui aiment beaucoup la photographie, plusieurs d'entre nous, pour le plaisir, souvent, on suit des photographes, puis on observe souvent un type de photo auquel on se dit comment ils ont pu bien prendre ça en plein jour. C'est les photos, par exemple, au ralenti, quand on regarde un plan d'eau ou quoi que ce soit, et qu'on voit vraiment là, une traînée ou qu'on voit... vraiment une eau beaucoup plus laiteuse, ben souvent c'est obtenu avec des filtres. Donc, avant de parler, ça sera une autre chronique pour parler de la photo lente, mais on va vraiment aujourd'hui parler des filtres, de leur utilité, à quoi ils peuvent servir durant la journée, puis quel type de filtre qui existe, parce que je peux vous dire une chose, François, il va vous étonner à vous parler de certains filtres auxquels moi, j'aurais jamais même pensé. Comment ça va, mon François?
Ben ça va très bien, ça va très bien. L'été est presque arrivé. En tout cas, les maringouins sont arrivés. Fait que je te dirais que le premier filtre que j'utiliserais quand je m'en vais faire de la photo de plein air, c'est un filtre anti-maringouin. Parce que de ce temps-ci, on sort dehors, puis là, on lève de terre. Moi, j'ai des grandes oreilles, c'est que c'est encore plus facile. mais donc, c'est sûr que les filtres, ben ça fait, je dirais probablement depuis le début de la photographie que ça existe. Déjà au départ, il y a des filtres qu'on ne sait pas qui sont là. C'est les filtres qui sont déjà intégrés sur chaque objectif, ce qu'on appelle du coating. Hein? Ah. Il y a des un peu comme on a sur nos lunettes. On va avoir des lunettes, et souvent, meilleures sont nos lunettes, meilleur le coating, le revêtement est fait pour empêcher des reflets, pour empêcher que la moindre petite tache d'eau soit plus enlevable. Okay. Donc, c'est ce qui va faire parfois la différence entre un objectif entrée de gamme, puis un objectif qui est plus dispendieux. Donc, ce revêtement-là va faire en sorte qu'on va avoir un meilleur rendu.
Donc, directement sur le verre de nos objectifs, il y a déjà des...
frontal, mais à l'intérieur, partout.
OK.
Parce que la lumière, c'est des longueurs d'onde. Donc, si on veut que toutes les longueurs d'onde soient à la même place, c'est les filtres qui vont faire ça. Ensuite, le premier filtre, je dirais qu'on va avoir, ça va être un filtre de protection. Donc, c'est un filtre maintenant, c'est un filtre clair qu'on appelle. Donc, c'est un filtre qui est complètement sans couleur, sans rien, qui est là juste pour prendre les chocs. Donc, si on accroche notre objectif, ben ça va être notre filtre à 50$ qui va être brisé à la place d'être notre objectif à 1000$. Donc, il y a quand même un gros avantage.
Il y a quelques zéros de plus dans le calcul. Oui.
Et surtout, quand on fait du plein air, c'est des choses qui risquent d'arriver. Parce que veut pas, on se promène où il y a des branches, où il y a des roches. Mettons une personne qui traîne son appareil avec elle et qu'elle va faire du quatre roues. Ben, il y a des fois de la roche qui revole, tu fais du vélo et des choses comme ça. C'est de la roche qui revole, ben, ça va être ton fil de protection qui va manger le coup. Auparavant, on utilisait ce qu'on appelait un filtre UV, hein, pour les ultraviolets. Le problème qu'il y a, c'est que ces filtres-là ont comme une petite tendance magenta. Donc, pour ça que maintenant...
Magenta, là, c'est ce qui est proche du rouge, là, hein.
Ouais, un rouge pâle.
Okay.
Je dirais, un rouge pas affirmé encore, là. Tu sais, là, c'est juste que... Donc, c'est pour ça que, auparavant, à cause des films, ben, ça faisait en sorte que les couleurs étaient bien avec ça. Donc, maintenant, avec l'avenue du numérique, surtout dernièrement, ben, les filtres, c'est vraiment des filtres de protection claire. Et là-dedans encore, il y a des différentes qualités. Et souvent, la qualité, on va le voir, par le pas de vis. Dans le sens qu'un filtre qui est cheap, tu vas le visser sur ton objectif, puis des fois, tu vas essayer de l'enlever, puis tu ne seras pas capable. C'est comme si ton pas de vis est tellement en métal chinois cheap, m'excuse de le dire de même, que ton pas de vis, il se défait.
OK.
Okay? Donc ça, c'est une des choses. Comment vraiment qu'il va avoir un petit choc, ton filtre, des fois, il risque d'être magané.
OK.
Il y a des filtres, par rapport à ça, qui vont avoir un pas de vis seulement vers l'objectif. Ce qui veut dire que tu es limité, tu ne peux pas mettre un autre filtre par-dessus.
Par-dessus.
Donc, qui des fois pourrait mettre, on va mettre un filtre polarisant ou quelque chose comme ça. Donc, fait que dans, comme je dis, des filtres de base, tu vas avoir différentes qualités là-dedans. Et si on achète un objectif dispendieux, ça vaut la peine de mettre un bon filtre.
OK, exact. Là, tu viens de parler des filtres polarisés. Donc, c'est un autre filtre qui peut être utilisé. C'est quoi l'avantage du filtre polarisé? Ah,
beaucoup, beaucoup d'avantages. Souvent, ce qu'on va le voir, le filtre polarisé, c'est pour avoir des beaux ciels avec des couleurs vives, OK? Un beau bleu, là, punché.
Donc, c'est une façon d'augmenter la saturation sans la booster dans Lightroom.
Ouais, comme, tu sais, quand tu as des verres polarisés, puis tu regardes le ciel, regardons ça, comment les nuages sont beaux, puis le ciel est beau. Ah. C'est le même principe. Tu regardes la rivière. Là, tu vois des saumons, OK? Donc, ben, mettons s'il y en a, OK? Ou il va en avoir, ou des belles truites, quand tu vas donner tes formations. Ça veut dire qu'avec la caméra, si je mets un filtre polarisant, ça va être la même chose. Soit que je vais un peu saturer mes couleurs, ou bien je vais enlever les réflexions.
On va enlever les réflexions.
Qui va faire que je vais être capable de voir l'eau. Que je vais être capable, mettons, s'il vient juste d'avoir une belle petite pluie, d'aller chercher toutes les gouttes d'eau, la séparation entre les gouttes d'eau et les feuilles. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va te donner un punch. Faire attention, c'est qu'un filtre polarisant est bon habituellement à 90 degrés par rapport à nous. Donc, si je photographie quelque chose mettons, si mon soleil est en avant ou en arrière, ça a zéro effet. OK? Donc, il faut vraiment que le temps que mon soleil soit vis-à-vis de nos épaules. Okay. Ben, si je regarde en avant. Si je regarde de côté, mettons, je me prends pour Cléopâtre, ben là, ça va être différemment, là. Mais autrement, là, faut que mon soleil soit de côté, ben, un angle à peu près de 45, et c'est là que je vais avoir mon meilleur effet.
OK. Faut qu'il rentre à 45 degrés dans la caméra.
Ouais. Ce qu'il faut que je fasse attention, c'est que si j'ai un super grand angle, ben lui, il va sortir de cette polarisation-là. Donc, j'aurai un ciel qui ne sera pas tout à fait égal.
Tout le temps polarisé, OK?
Ouais.
Le temps file vite. Je pense qu'il ne faudrait vraiment pas oublier les filtres de densité neutre. Hein?
Oui. Filtre de densité neutre, c'est pour ce que tu disais tout à l'heure, lorsqu'on veut étirer le temps. Donc, pour faire de la longue exposition.
OK? Ben, étirer le temps ou par journée très lumineuse si on veut utiliser ou si on veut tout simplement essayer de baisser un peu l'impact de la forte lumière.
Oui.
Donc d'avoir un ciel bleu au lieu de le brûler blanc, puis d'avoir aussi un avant-plan ou une scène qui va avoir quand même des couleurs intéressantes.
Bon, ça va être un fil de densité neutre dégradé.
Oui.
Qui ne sera pas partout pareil.
OK.
Parce que si tu as un fil de densité neutre égal, ben la lumière que tu enlèves en quelque part, tu l'enlèves partout. Ça veut dire que si j'en enlève sur mon ciel, je vais en enlever en bas. Tandis que si j'ai un ciel dégradé, un fil de densité neutre dégradé, ben ça veut dire que je vais être capable juste de foncer mon ciel et que l'avant-plan ne sera pas touché, ou le contraire. Okay. Ça peut arriver des fois que c'est vraiment c'est ma rivière qui a trop d'eau. Pas trop d'eau, mais trop c'est de lumière. Trop, ouais. L'eau n'a pas. Donc, avec ça, je vais être capable. Et la particularité, quand on utilise des fils dégradés, c'est qu'on n'aura pas... Souvent, ça va être des filtres carrés, non pas des filtres vissés, pour placer notre dégradé où on veut et aussi dans l'angle, souvent, qu'on le veut. Fait que ça, c'est une des choses. Et quand on commence à travailler avec ça, ça change notre vie.
J'imagine. Puis effectivement, pour continuer à changer la vie de nos auditeurs, il va falloir qu'ils patientent à la prochaine chronique, parce que le temps file à une vitesse affolante. C'est juste complètement débile. Il faut toujours... On manque souvent de temps pour parler, mais c'est juste pour vous rendre plus intéressant à la prochaine, parce qu'on va parler de Photoland, donc on va revenir sur les filtres ND et leur impact. Avant qu'on termine, de quelle façon est-ce qu'on peut te joindre si on veut des conseils, si on veut parler photographie avec toi, de quelle façon est-ce qu'on peut te joindre?
Le plus facile, ça va être sur mon Facebook.
OK. Hein,
François Desrosiers sur mon Facebook, donc, ou Dero Photographe, D-E-S-R-O-S. Donc, c'est une façon facile de me rejoindre. Idéalement, peut-être aussi des fois sur un terrain de camping, sauvage dans le bois, tu vois une rivière en train de te filmer, en train de donner tes cours.
Parfait.
Donc, si tu vas prendre tes cours cet été, ça va être le fun. Mais c'est ça, donc Facebook, c'est une...
Numéro un. Donc, tu parles de mes cours, effectivement, dans mon cas, on peut toujours parler photo, mais si vous êtes intéressé par la pêche à la mouche, j'ai eu l'OK de la santé publique, donc tout commence à partir là, et même déjà commencé au moment où vous entendez cette capsule-là. Vous pouvez me rejoindre, Spirit, S-P-E-Y-R-I-T, à commercial sur Facebook, à commercial gmail.com par email. Et sur ça, ben, je vous souhaite une super de bonne semaine, puis on se reparle dans deux semaines pour une autre chronique photo avec vous.
Allez et jouez dans le plein air, les amis.
Yes. Bye.
Bye.
Que vous partiez à l'aventure en pleine nature ou que vous soyez juste d'une nature aventurière, devenez accro à l'aventure sous toutes ses formes chez Simplement Plein Air, Simply Outdoors. Nos chroniques et nos reportages combleront le néophyte et l'expert. N'oubliez pas, ce sont les petits détails qui font la différence.
Et voilà, on est de retour ici à l'émission Simplement Plein Air. Que vous nous écoutiez en balado, au boulot, en auto, au dodo. Si vous nous écoutez, par contre, au boulot, attention, parce que le patron ou la patronne pourrait... mais convertissez-la, donc elle va nous écouter, elle aussi. Et si vous êtes à la radio, près de chez vous, en auto, ben faites attention, parce que le prochain sujet... pour moi, madame, elle va rouvrir le volume. Mais même moi, je le rouvre, le volume, quand j'écoute mon prochain chroniqueur. Il s'agit de monsieur Guy Larochelle. Salut, Guy.
Salut, Guy.
Quand on parle avec Guy, bien naturellement, là, aujourd'hui, on va parler... On avait débuté sur une série là, de petits fruits sauvages, parce que c'est une passion. Guy aime beaucoup, Guy et sa conjointe aiment beaucoup récolter les fruits sauvages. Donc, on va continuer dans cette veine-là, si on peut appeler ça ainsi. Et on était rendu à la conservation, hein, Guy?
Oui.
Et puis
oui,
là,
parce
ben,
que
vas-y.
Ce qui se passe avec tout ça, on est dans période de cueillette. Ben, on peut dire que pour le trèfle, c'est pas mal terminé. Pétale de rose, la même chose, mais quand on cueille, souvent, on n'a pas le temps de faire les recettes, fait qu'on peut préparer notre liquide et le congeler et faire nos petits notre petite finition plus tard pour se faire soit une gelée ou le miel pour ce qui est du trèfle.
Oui, puis moi, je vous dirais, si vous êtes dans le Bas-Saint-Laurent, là, Gaspésie, ben c'est le temps, là. C'est en plein dedans, on est dedans. C'est vers la fin, mais pas, je dis, en plein dedans et... C'est un pléonasme, là, mais on est vers la fin, je dirais. Mais il y a encore possibilité d'aller chercher des pétales de rose. Et moi, devinez-le ou non, j'ai tellement de trèfle dans la cour chez nous que je suis pas obligé d'aller trop loin.
Bon, ça c'est le fun. Puis là, en cueillant ça, ben tu peux décider de faire ton, comme je disais tantôt, ton liquide et la congeler et préparer tes pots plus tard.
Oui, c'est ça. Ben, explique-nous un peu comment ça fonctionne, ça.
Ben là, en fait, là, pour ce qui est de la gelée de pétales de rose, faut faire, c'est comme une infusion. C'est un peu la même chose pour les têtes de fleurs de trèfle. Et là, on les met dans l'eau. J'ai pas les proportions devant moi, mais ma conjointe avait sorti son bon vieux livre Fleurbec. Là-dedans, il y a plein de conseils pour ce qui est de la gelée et pour ce qui est aussi la gelée de pétale de rose et le miel de trèfle. Et il y a plein d'autres recettes aussi pour ce qui est des petits fruits, pour la mélanchier, le bleuet, les fraises, les framboises et tout ce qu'on peut retrouver ici au Québec dans le livre Fleurbec. Plein de choses là-dedans.
Oui, puis là, tu nous dis, tu fais ton infusion naturellement, et puis tu peux congeler ça pour faire ta gelée ou pour faire ton miel plus tard.
Oui, exactement. Parce qu'en fait, c'est de l'eau, c'est une eau qui est à saveur soit de pétale de rose ou de têtes de trèfle. Et là, tu peux le finaliser plus tard, il n'y a aucun problème.
Mais si, admettons, on décide, là, on se dit, bon, ben tiens, je tombe dans le trèfle aujourd'hui, là, je me sens chanceux, wahaha, et puis, et puis là, ben je fais ça, est-ce que ça se conserve quand même sur tablette, là, assez longtemps, ou il y a vraiment, vraiment un temps, là, comme un mois ou deux, où il faut le consommer?
Pour ce qui est du miel, ça se conserve très longtemps. Si on fait la recette parfaite, là, parfaitement réussie, Parce que ça arrive qu'on va la manquer, question de proportion, il va avoir un petit dépôt cristallin là dans le fond du pot de miel. Ça arrive quand on achète même du miel commercial qui va se faire comme du sucre, il va devenir cristallisé. Mm-hmm. À ce moment-là, il est pas manqué, il est pas perdu, on peut le mettre dans l'eau chaude et le faire.
Ouais, c'est un genre de homogénéisation ou de quoi de même là. En tout cas, c'est
chaude comme ça.
Ouais, c'est ça.
Mais étant donné que le miel est très sucré, ça se conserve très longtemps. On parle de mois, là, de plusieurs mois. Ouais. Dans le livre, sûrement, qui mentionne la durée de conservation.
Mm-hmm. Mm-hmm. Et puis là, ben, naturellement, c'est-tu la même chose aussi pour les pétales de rose? Ça se conserve assez longtemps, la gelée, ou encore là, il y a une vie de tablette, si on veut? Là.
Oui, même chose. Ça se conserve très longtemps. On parle de plusieurs mois.
Ah, OK. Donc, on peut, on n'a pas de peur à avoir, là, si on décide, tiens, on va faire quelques pots, et puis on se dit, ouais, mais là, si j'en fais 7, 8, 10 pots, une douzaine, admettons, là, et puis on veut les conserver, bien, il n'y a pas de problème, on les conserve à la noirceur, naturellement, au frais.
Oui, ouais, mais si on a des craintes, on peut tout simplement les faire congeler, on peut les mettre au congélateur, à découvert, une fois qu'il est congelé, on met notre couvercle et on le laisse aller. Là, puis il va durer très, très longtemps là, au congélateur. Il n'y a pas de problème à le congeler aussi.
Oui, puis là, tu viens de dire quelque chose de très important. On le congèle à découvert. Peux-tu nous dire pourquoi?
Oui, bien, souvent, lorsqu'on passe la température de la pièce au congélateur, il va se faire de la condensation, puis ça, ben c'est pas le fun d'avoir ça en surface de nos pots. Alors, congèle à découvert. Et aussi, des fois, on va en avoir mis un peu trop dans le pot, mais en congelant, il va gonfler. S'il y a un couvercle, ben le pot va casser. Il faut se garder un bon demi-pouce là, sous le
couvercle
du pot, c'est ça.
Ah, OK. Mais ça, c'est une chose que, je savais même pas, moi, que... Puis là, ben tu vraiment, oui. Parce que c'est vrai, hein, la condensation qui va se faire, ça fait comme un genre de petit frimas, là. Tu sais, des fois, là, c'est comme, moi, on n'est pas fervent de tout ça, mais ça arrive, là, que tu vas acheter un sac de légumes congelés, puis il est bien beau, là, en magasin. Tu vas arriver chez vous, puis il est bien beau, il a dégelé un petit peu, naturellement. Tu l'envoies au congélateur, puis lo and behold, qu'est-ce qui arrive? C'est que tu t'aperçois quand tu le rouvres, voyons, on a bien de la glace dans ça.
Oui, oui.
Ça qui arrive.
Ces plaques de glace-là, on les enlève une fois qu'on a ouvert le contenant, on enlève ces plaques de glace-là. Moi, je trouve pas ça agréable d'avoir ça. Là.
Non, parce que c'est ça, hein, quand que les gens disent « Ah, ça a un goût de congélateur. » Ben, c'est ça, hein, c'est ces petites choses-là. Et puis ça, ben naturellement, on peut déguster ça. Écoutez, une fois que c'est fait, là, comme tu dis, c'est un délice pour le palais. Mais là, il y a d'autres choses qui s'en viennent, là, des petits fruits qui sont comme un petit peu
bleu foncé, je pense.
Oui, des bleuets. Je pense que c'est des bleuets que tu veux parler. Hein?
Ben oui, ça s'en vient.
Ouais, ça commence, pour ce qui est de l'Abitibi, ça commence les bleuets. Et là, ça, je pense que c'est important aussi de parler de conservation tout de suite parce que je crois qu'on va avoir encore beaucoup de bleuets cette année. Ça veut dire qu'on peut s'en ramasser pour toute la saison, toute l'année qui vient. Et ce qui est bien important, moi, ce que je fais, c'est que je les congèle toujours à découvert dans des ziplocs. Je laisse mon ziploc ouvert, je mets ça au congélateur 24 heures. Après ça, je ferme mon ziploc. Là, on est bon pour plusieurs mois. Et chose bien importante, on ne lave pas les bleuets.
Oui, ça, c'est une erreur que moi, j'ai fait. Puis, je vous dirais que je ne le referai plus jamais. J'ai scrappé une coupe de sac de bleuets comme ça, là, ouf. Mais Guy, on va retenir ça, parce que j'aimerais ça qu'on parle, parce que plus amplement de ça, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de méthodes de conservation pour le bleuet. J'ai même vu et même lu et entendu parler du bleuet déshydraté. Wow, ça doit pas être trop gros, mais ça se fait. Et puis, ben naturellement, il y a toutes les confitures, les gelées, tout ce qu'on peut faire avec. Donc, on va retenir ça pour la semaine prochaine, Guy. Et naturellement, on sait que tu as un Facebook et puis qu'on peut aller faire un tour, aller voir ce que tu fais. J'ai vu dernièrement que tu avais tout posté les recettes qu'on avait parlé et puis je les ai, moi, dans mon téléphone très précieusement. Et puis, je me suis trouvé une talle de pétales de rose, ben de rose, de rosier sauvage. C'est-tu comme ça que ça s'appelle, oui, hein?
Ouais, ben c'est le rosier sauvage, c'est ça. Que
c'est
j'ai
ça.
Pas le nom
scientifique, là, ou latin, ouais, c'est et ça.
Ouais, ben là, on va directement dans la bonne fleur laurentienne.
C'est
là,
ça.
De Marie-Victorin.
Absolument.
C'est ma référence.
Ouais, absolument. Ouais. Donc, là-dessus, nous, ben, on va retrouver Guy et on va parler de bleuets la semaine prochaine. Donc, bonne semaine, Guy.
Bonne semaine, merci.
Simplement plein air, c'est de la balado. Simplement plein air, c'est de la radio. Et maintenant, simplement plein air, c'est de la vidéo. Et oui, profitez-en pour visiter notre canal YouTube Simplement plein air et abonnez-vous. Après tout, Simplement plein air, c'est pour vous. Et voilà, on est de retour et pour ce faire, ben pourquoi pas aller déguster une bonne bière de microbrasserie. Et quand on déguste une bière de microbrasserie, ben on en parle toujours avec notre ami Kevin Plante-Germain du podcast de la balado-diffusion, je m'en allais dire l'âge de bière. Salut Kevin.
Bonjour mon cher Guy.
Hey, cette semaine, tu vas nous parler de la Ouze, O-O-Z, de la Trailway Brewing de Fredericton au Nouveau-Brunswick. C'est le fun parce que tu me disais, Oronde, ils commencent à rentrer leurs produits au Québec.
Ben oui, effectivement. Trailway est une excellente microbrasserie néo-brunswickoise que j'ai eu l'occasion de découvrir à mon séjour là, l'année passée. Et j'ai été heureux de constater que leurs produits ont commencé à rentrer sur les tablettes québécoises, dont la Roux John Hops et ils ont une autre bière que je ne me souviens plus le nom, qui est une session IPA. Mais la Ouze, O-O-Z, là, comme une glu en anglais, là, une Ouze, c'est comme
De la Ouze, ouais, ouais.
Ouais, c'est ça. Dans le fond, c'est une double IPA faite d'avoine et de blé. Donc, c'est une bière qui s'annonce très, très goûteuse.
Très intéressant, d'ailleurs. Hein?
Oui. Fredericton, New Brunswick, c'est une bière à 8% d'alcool. Donc, c'est quand même une bière assez coriace, là. Pour l'été, il faut vouloir vraiment déguster ça, mais comme toute bonne double IPA, elle possède un profil fruité qui est alléchant, finalement. Bon, IPA d'avoine, donc on s'attend à quelque chose d'un peu plus onctueux que la norme. L'avoine va toujours rajouter un peu un aspect, pas crémeux, mais corpulent à la bière. Mm-hmm. Fait qu'on s'attend quand même à ça. La canette, quand même assez facile à reconnaître, Guy. Grosse canette mauve. C'est une 473 ml, puis c'est écrit en gros gluant ouze en rose dessus, puis ça fait le tour un peu de la canette. Donc, c'est quand même flash à l'œil. Branding très unicolore. Donc, on peut le remarquer dans tous les bons détaillants du Québec, finalement, les bons DBSQ et spécialistes en bière de microbrasserie. Quoi dire d'autre sur la ouze? Eh bien, si on la verse dans le verre, Guy, robe jaune pâle, super easy, là, bien nuageuse, avec un bon gros doigt de mousse blanche qui se maintient sur le dessus là, avec des bonnes bulles. C'est l'intérieur est animé par une belle effervescence aussi. Tu sais, c'est quand même, on la voit bien malgré l'opacité de la bière, ce qui est quand même assez rare. Généralement, les double IPA, c'est un peu plus tranquille. Mais celle-là, on la voit quand même assez bien. Au nez, c'est super tropical. Ça a des arômes houblonnés là, de mangue, d'ananas, fruits de la passion, pêche, la mandarine. C'est super explosif comme parfum. Là, tu prends une sniff de ça, là, puis juste en versant, en fait, juste en versant la canette dans le verre, ça met vraiment comme fou, ça a monté tout de suite au nez, puis c'était succulent comme odeur, c'est très appétissant. J'aime ça, une bonne double IPA bien parfumée comme ça.
Oui, puis c'est drôle quand même qu'on lui ait donné le nom de Ouze, parce que finalement, ça me semble pas être une bière d'une épaisseur collante.
Je pense qu'il y a peut-être un petit côté branding, parce que ça ouais. fait cool. Là. Je m'attendais pas à un sirop non plus. D'ailleurs, si ça en aurait été un, j'aurais été un peu déçu.
Ouais.
On veut pas nécessairement que ça soit trop, mais peut-être l'ajout d'avoine, ils se sont dit, ça va être un peu plus corpulent, on va l'appeler comme ça. Écoute, j'en ai aucune idée, mais bon. Ce qui nous intéresse, c'est ce que ça goûte, Guy. Hein?
Ben oui, absolument.
Donc, en bouche, on s'introduit ça par des notes super fruitées. Je te dirais principalement l'ananas. Ensuite, il y a la mangue jaune poivrée qui va suivre. Il y a aussi un côté, en fond, le fruit de la passion. Donc, comme son nez, présence de pêche, d'agrumes. Elle possède un corps bien rond tel que promis. Somptueux, des notes importantes de houblon frais. Et là, on sent vraiment les houblons frais de la côte ouest. Le citra, le cascade, ces choses-là, là, on super bien. Donc, tu sais, comme on le rappelle, il n'y a pas littéralement des fruits tropicaux dans cette bière-là, mais la composition des houblons fruités fait en sorte qu'on ressort ces arômes-là. Puis ça ressort super bien. On a une amertume résineuse, tranchante, qui attaque à peu près en mi-bouche. Là. Donc, une résineuse quand même assez punchée, puis elle va vraiment soutenir jusqu'à la fin de la gorgée. Forme d'astringence finale même, puis une amertume qui est poudreuse à la fin, puis qui est forte, donc quelque chose de... c'est quand même corsé comme amertume également. On niaise pas là-dessus. Fait que, excellente double IPA, pour vrai. Moi, j'avais goûté la Wood John Hops, qui est leur IPA régulière, qui m'avait bien charmé. La double IPA fait pas exception, pour vrai, là, on a vraiment un profil fruité qui est remarquable, des houblons super frais. Souvent, quand c'est des bières de d'autres provinces, j'y vais un peu avec... Je me garde une réserve, pas parce que les autres provinces font pas du bon stock, c'est pas ça du tout, c'est le transport.
Ouais, c'est ça qui arrive bien souvent. Hein.
Ouais, c'est ça me stresse, parce que j'ai déjà eu des mauvaises expériences dans le passé avec des microbrasseries ontariennes. Pas que la microbrasserie font pas des bons produits, c'est que le temps de trajet fait en sorte que la bière s'est dégradée. Bon, c'est une microbrasserie, tiens, bon, moi je suis au Saguenay, on va se dire, on est loin de l'Ontario. Fait que tu sais, les mesures de réfrigération et de conservation sont pas bien respectées dans le transport, surtout interprovinces, ça peut affecter la qualité de la bière. Mais ici, pour vrai, ça a bien été exécuté. Bon, il n'est pas si loin que ça de Fredericton, toi encore moins. Ouais. Fait que je pense qu'elle a le temps de quand même bien se rendre. Vérifiez vos dates, c'est très, très important. Donc, ce que j'ai aimé, surtout, bon, de la ouze, là, pour y revenir, amertume super punchante, elle a une attaque qui est juste. Tu sais, si vous voulez une bonne double IPA avec une bonne amertume, une bonne balance de fruits, regarde, moi, j'ai été très satisfait. Vraiment un bon produit acadien. Si vous la voyez sur les tablettes et vous l'explorez un peu, les bières du Nouveau-Brunswick, je pense que ça serait un coup sûr. Peut-être commencer avec la IPA régulière pour voir si vous aimez avant de vous garocher dans la double, parce que c'est un petit peu plus coup de pied.
Oui, c'est coup de pied. Puis en même temps, mais comme tu le dis si bien, hein, et interprovincial, je veux dire, c'est des bières à découvrir. Il faut absolument les découvrir naturellement quand on est amateur, mais que toi, là, si tu aurais à prendre une bouffe avec ça, ça se prête pas avec le gros steak épais, là, barbecue?
Ben, généralement, les IPA, les bières avec les amertumes qui sont fortes comme ça, ça détruit ta langue. Vraiment, ouais, littéralement. Fait que je dirais pas quelque chose de avec des saveurs fines comme un steak que tu as pris la peine de bien faire cuire. Crains ça au maximum. Vas-y avec de la bouffe super épicée, là, équivalente pour être capable de justement donner la bonne sensation à ta langue. Tu vas être encore capable de goûter. Allez-y dans le Mexicain, dans l'Indien piquant, quelque chose dans ce genre-là, ça va ça avec des sauces fortes, là, des ailes de poulet, le pain piquant. Dans les IPA, c'est vraiment dans les IPA, vraiment amer. Puis puissante comme ça, allez-y, là, all in.
Oui, hein. Et puis, en terminant comme ça, mon cher Les balados diffusion L'Âge de bière, c'est toutes les semaines, et puis vous abordez des sujets, là, parce que c'est pas juste de la microbrasserie que vous faites.
Ben c'est ça, dans le fond, L'Âge de bière, on déguste des bières commerciales puis des bières de microbrasserie. On compare les bières commerciales entre elles, parce que personne ne le fait, puis nous, des fois, on aime ça se torturer. On discute entre nous autres, regarde, dernièrement, on a jasé de bobettes, fait que c'est le genre de sujet qu'on peut apporter un peu n'importe comment dans nos épisodes.
Ouais.
On fait ça en chum, puis suivez-nous sur Facebook, Twitter, on est sur tous les distributeurs de balado classiques, Android, Apple Podcast, Spotify, Google Play, Balado Québec, on est partout. Venez nous voir, on a un Patreon aussi si vous voulez nous encourager, puis vous tombez en amour avec nous autres, vous avez des contenus spéciaux.
Absolument, puis manquez pas la semaine prochaine, parce que Kevin va nous parler de la Kumquat Sour, c'est de la microbrasserie Pibrac à Jonquière. Donc, à ne pas manquer, là-dessus, Kevin, bonne bière et bonne bière tout le monde.
Merci, toi aussi.
Les balados diffusion Simplement plein air sont rendus possibles grâce à la participation des partenaires suivants.
Action Kia de Rouyn-Noranda pour un choix de véhicule neuf Kia adapté à vos besoins, mais aussi un véhicule d'occasion fiable, sécuritaire et certifié. Venez rencontrer notre équipe qui sera vous conseiller le bon véhicule, comme le Kia Sorento, offert avec traction avant ou intégrale. C'est la qualité à un prix incomparable pour ceux qui aiment en avoir plus pour leur argent. De plus, notre expert en crédit vous accompagnera pour faire la meilleure transaction possible. Action Kia, meilleure garantie et meilleur service au meilleur prix.
Que ce soit pour vos animaux de compagnie ou vos animaux de ferme, la compétence porte un nom. Monsieur Bouffe, 25 Avenue Chaudière à Rouyn-Noranda, au 819-797-2564, point à la ligne. La saison estivale arrive à grands pas et vous avez besoin de grand air, vous avez envie de camping et de pêche, ProNature de Rouyn-Noranda est la solution à vos questions. Une simple visite en magasin vous permettra de constater notre vaste inventaire de cannes, de moulinets, les leurres, aussi bien les lancers légers que les lancers lourds, et les cannes à mouches. Nous vous conseillerons sur les bons produits, tant pour le camping que la pêche. Passez-nous voir chez ProNature de Rouyn-Noranda, 59 Avenue Principale, 819-797-2300.
C'est ainsi que se termine une autre bonne balado de Simplement plein air. Mais ne vous en faites pas, nous serons de retour tous les lundis, mercredis et vendredis pour le plaisir de vos oreilles. Car après tout, les balados diffusion Simplement plein air, c'est une passion.